France Inter.
Si on veut un moment qui ait un écosystème théâtral qui soit ultra vivant, alors il faut que le théâtre de l'Odéon soit pas le même théâtre que la Comédie Française, soit pas le même théâtre que le Théâtre National Populaire ou qu'un centre dramatique national ailleurs en France. Pour ça, il faut faire des choix, il faut prendre des directions et il faut tenter des choses. Si je venais là pour arrêter de prendre des risques, ça m'intéresse pas du tout. J'ai envie de poursuivre le travail que je mène en tant qu'artiste depuis des années.
Faire que les gens soient des acteurs du moment et pas juste des spectateurs. Et ça, je pense que c'est le cas de ce qui se passe dans mon restaurant. Il faut aussi qu'ils aient à s'interroger, qu'ils aient des choses à couper, à décortiquer et que d'un seul coup, l'acte de mettre à la bouche n'est pas juste une fourchette et une cuillère, juste un moment confortable et qu'il y a un moment à s'interroger sur la façon dont on mange, la façon dont ça a été fait et comment ça on le met en bouche. Et ben, ça nourrit intellectuellement et qu'on oublie parce que finalement, on fait que se nourrir.
Il met en scène une matière littéraire, cinématographique, théâtrale, en piochant dans l'œuvre de Marguerite Duras, la romancière du barrage contre le Pacifique, la réalisatrice d'India Song, l'autrice de théâtre Susanna Handler, Savannah B, celle qui fut livrée adolescente par sa mère à un amant chinois pour obtenir de l'argent, celle que le Parti communiste exclut pour être trop indépendante d'esprit, cette écrivaine morte en 1996 a laissé une œuvre et une empreinte considérable. Julien Gosselin fait revivre cette littérature au théâtre, à l'Odéon Berthier à Paris, dans un spectacle qui, si on décide de le voir dans l'intégralité, dure 10 heures. Bonjour Julien Gosselin.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
On peut aussi venir et suivre le spectacle uniquement 2 heures.
Oui, oui, on fait ce qu'on veut.
On est très libre avec Julien Gosselin. Le directeur du Théâtre National de l'Odéon à Paris que vous êtes ne s'interdit pas de créer encore. Après les particules élémentaires il y a 12 ans, après 2066, d'après l'écrivain Bolaño, ou Extinction de Thomas Bernhardt, vous proposez Musée Duras avec des acteurs jeunes, issus du conservatoire, qui prêtent leur corps, leur voix, leur âme et leur jeunesse à la romancière qui disait « Morte, je peux encore écrire ». Votre invité donne faim, c'est le chef du restaurant La Grenouillère, 2 étoiles au Michelin, situé près de Montreuil-sur-Mer. Bonjour Alexandre Gauthier.
Oui, bonjour Vincent.
On vient dîner à La Grenouillère, mais on peut aussi dormir dans cet établissement du Pas-de-Calais, où décor et environnement sont aussi importants que la cuisine servie dans notre assiette. J'ai sur la table un livre signé Gauthier et Gosselin, Hors les murs. Vous nous raconterez cette expérience peu commune menée dans un garage parking parisien, et vous nous direz ce qui vous réunit, c'est le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Julien Gosselin, est-ce que le principal point commun entre un chef qui invente des plats et un metteur en scène qui invente une manière de rendre compte d'un texte, c'est la liberté ?
En tout cas, la liberté, elle doit être fondamentale là-dedans. Je crois que le point commun, en tout cas, qui me saute le plus au visage, c'est le fait qu'avec un certain nombre d'armes, de structures qui sont face à nous, alors pour moi, ça peut être le son, la lumière, les acteurs, les actrices, l'image, par exemple, la vidéo, avec ces éléments-là, on essaye de construire quelque chose qui, à la fin, va être finalement une sensation, quelque chose d'impalpable. Et cette structuration-là du travail, je la retrouve très fort dans la cuisine, ouais.
Alexandre Gauthier, est-ce qu'on est libre quand on est un chef comme vous ?
On est libre en permanence parce que c'est la seule façon finalement d'oser donner et espérer faire plaisir aux clients. Parce que si on doit juste donner à manger et nourrir finalement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et moi en tous les cas, je souhaite que les clients puissent venir au restaurant et être bousculés un petit peu.
Bousculés ?
Ouais.
C'est quoi être bousculé quand
bousculer, c'est ne pas être justement être juste dans un moment confortable. On ne peut pas être juste dans la gourmandise et le très très bon. J'ai envie de dire, ça c'est le minimum. Il y a restaurant à restaurant, il y a cuisinier à cuisinier, mais quand on a envie de s'exprimer, il faut aussi savoir défricher, trouver des chemins qui soient autres pour pouvoir exprimer un territoire. C'est une photographie d'un instant présent, gustatif et émotionnel. Il faut réussir à creuser finalement un produit qui est forcément commun. Je prends une endive, qu'est-ce que je peux faire de cette endive aujourd'hui et l'emmener dans une direction que le mangeur, qui la connaît en général par cœur, qui l'a mangé au quotidien chez lui, puisse d'un seul coup être bousculé et s'interroger sur le plaisir ou non qu'il a à le manger chez moi.
Alexandre Gauthier a des produits frais de sa région, le Nord-Pas-de-Calais devant lui. Vous, vous avez des textes et de la littérature. Souvent, c'est un bouquin qui déclenche l'envie de théâtre de Julien Gosselin.
Oui, oui, là c'est venu de la lecture de L'Homme Atlantique de Marguerite Duras.
Un texte très court,
un film d'ailleurs. C'est le scénario, entre guillemets, ou le texte lu dans un film. Et parfois, enfin souvent, moi c'est ça que ça me fait, c'est que la vie fait qu'un livre sonne ou résonne de manière ultra forte. Et quand cette chose-là arrive, généralement je le fais pas tout de suite, je le mets pas au théâtre tout de suite, il faut un temps de digestion de ça. Mais quand ça arrive, ouais, c'est évident.
Donc vous lisez et vous attendez que des images surgissent.
Ah, c'est une bonne question parce que c'est difficile de dire ce qu'on ressent. Mmh. Souvent, c'est pas des images très nettes. Souvent, c'est une sorte de sensation d'ouverture de l'espace, de sensation qu'on est en capacité de transmettre l'émotion qu'on ressent. Quand cette chose-là arrive, oui, c'est net. Il peut m'arriver de lire des textes où j'ai des images très fortes. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Si je lis La Montagne Magique, j'ai des images nettes, mais l'endroit profond de sensation, je pense que je suis pas encore capable de le transmettre.
Ça viendra.
Ouais, peut-être.
Quand vous serez grand.
Ouais, exactement.
Alexandre Gauthier, j'ai lu le livre que vous sortez donc avec Julien qui s'appelle Hors les murs. Et vous dites, je pratique une cuisine d'auteur. Et moi, je voudrais savoir ce que ça veut dire être auteur quand on est chef.
Bah, c'est-à-dire que quand on est cuisinier ou chef, notre premier travail, c'est un artisanat finalement. C'est de simplement décoder, réaliser un travail permanent, qui est un travail, une recette, ce qui est un codage qu'on décode, et faire que le tour de main réalise finalement cette recette. L'amener plus loin, c'est-à-dire que si on est juste dans les vieux grimoires de cuisine et qu'on est juste en train de proposer quelque chose qui a déjà été fait avant, on est dans un artisanat.
L'auteur invente.
Alors, en tous les cas, il trouve sa voie, il trouve lui-même sa propre voie. Est-ce qu'il invente, sera un inventeur, mais peut-être, mais en tous les cas, il défriche un endroit, il prend un sentier qui n'a pas été, pour l'instant, trouvé.
Faut connaître tous les autres sentiers.
Bah oui, vous avez raison, et ça c'est toujours... qu'est-ce qui n'a pas été fait dans notre époque ?
Pareil au théâtre.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on apporte de neuf ? C'est ce qui fait que vous vous levez le matin.
Vous parliez de liberté au départ, quoi. À quel moment on peut exercer la liberté la plus profonde ? Est-ce que ça va apporter quelque chose de neuf ? Ça, je suis pas le meilleur pour le dire. Mmh. Mais je dois dire, en tant que spectateur, par exemple, la sensation de voir quelque chose, que cette chose me plaise ou pas, par ailleurs, que je n'ai jamais observé, c'est sans doute ça qui me fait aller au théâtre.
Oui. Donc certainement, vous cherchez à reproduire ça aussi chez les spectateurs qui viennent voir du Gosselin.
Ah, c'est possible. En tout cas, je crois très fort, j'ai confiance dans les spectateurs et les spectatrices. Ça, c'est une chose depuis le début.
Avoir confiance, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que si vous demandez aux gens qui vous disent qu'il faut faire attention au théâtre de ne pas brusquer les gens, ils vont vous donner 10 définitions d'un théâtre qui ne brusque pas les gens. C'est-à-dire, certains vont vous dire qu'il faut vraiment faire du théâtre classique. Mais moi, je sais que si vous montrez du théâtre classique à des gens parfois très jeunes, ils peuvent adorer ça ou ils peuvent être complètement rebutés par la langue. Si vous dites qu'il faut faire du théâtre très contemporain parce que ça parle aux jeunes, en fait, on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette ignorance, à mon avis, elle est très précieuse. Il faut essayer, il faut chercher, il faut faire confiance dans l'idée que les gens peuvent aimer ou ne pas aimer, mais que quelque chose va germer, et que la découverte, c'est une chose fondamentale.
Moi, j'ai aimé cette immersion de 10 heures que j'ai suivie à Odéon Berthier, dans ces ateliers où on peut inventer toute forme scénographique. On n'est pas dans un théâtre à l'italienne. Il y avait avec moi, à côté de moi, par hasard, des élèves de lycée. À certains moments, puisque le spectacle est conçu de plein de séquences, vous piochez dans l'œuvre de Duras, vous ne donnez pas l'intégralité d'un texte, vous allez chercher ici et là dans des films, dans des pièces de théâtre et dans des romans. Il y avait des élèves qui étaient très bavards à certaines séquences et totalement muets à d'autres, parce qu'ils étaient par exemple avec Susanna Handler.
Ouais. Ah, c'est curieux, hein. Alors que, pour le coup, c'est peut-être la forme la plus théâtrale dans le sens traditionnel, c'est-à-dire la pièce est montée quasiment dans son intégralité, il y a peut-être quelques coupes, mais à peine.
C'est une femme de bourgeois qui a de l'argent, qui vient chercher une villa pour l'été, son mari la trompe, on apprend ça progressivement, elle-même le trompe, et puis elle est profondément malheureuse. C'est un texte sur la solitude.
C'est une pièce de théâtre tout à fait intéressante parce qu'elle est bizarre. Elle est aux frontières du boulevard. En réalité, elle est en même temps sur ce qu'on appellerait un drame bourgeois, et elle déploie en même temps en germe, parce que c'est une pièce assez ancienne, déjà toute la poésie étrange de Duras, la poésie comme ça un peu maritime qu'elle va trouver ensuite à Trouville et sur la côte atlantique. C'est une pièce très très émouvante et très difficile à décrypter. Et effectivement, je suis épaté que vous me disiez ça, parce que ça m'intéresse vachement de me dire que ça peut accrocher comme ça des jeunes gens, alors que c'est...
On entendait les mouches voler.
Ouais, c'est extraordinaire.
Auparavant, je les avais engueulés parce qu'ils faisaient trop de bruit.
Mais moi, j'aime bien, je vais vous dire, il y a une chose que, avec les jeunes spectateurs et jeunes spectatrices, surtout maintenant que je suis directeur, je me dis, c'est bien que ça s'engueule un peu dans la salle. Qu'il fasse un peu trop de bruit. En tout cas, le public se sent vivant. Les gens dans le public savent qu'ils sont avec des gens différents d'eux-mêmes, et aussi on va au théâtre.
Bah, autrefois, on s'engueulait au spectacle.
Bah ouais,
bah 19e bon. Et même avant, du temps de Molière.
Mais vous savez, à l'Odéon, on risque de s'engueuler encore un peu.
Hein. Ah bah oui, parce que ce monsieur Gosselin n'est pas consensuel. On va écouter Yamé dans le grand atelier de Julien Gosselin avec le chef Alexandre Gauthier. Yamé qui chante « Dans 10 ans ».
Le grand atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
J'ai rêvé de quelque chose d'autre que charbonner pour les autres. Moi je visais haut et j'étais seul face à mes choix. Tu devrais faire un vrai bon char, qu'il disait. Là tu ferais quelque chose. Ils n'ont que des regrets, ils cherchent nos roues pour leur bâton. Ça m'appelle beaucoup mon frère, finissez pas par y croire, non. Le vrai son là s'en va faire, pour nous c'est pas juste un plafond. Tu me verras pas ta fête, je là où tout peut se faire.
Finalement, je suis entouré d'un metteur en scène et d'un chef, et je me dis que j'ai deux garçons qui pratiquent à peu près le même métier. D'ailleurs, je vous trouve assez jumeaux dans votre parole, on vous a entendu dans le générique. Est-ce que j'ai raison de dire qu'il y a un vrai lien presque gémellaire entre Julien Gosselin et Alexandre Gauthier, Julien ?
Bah, déjà, on parle trop vite tous les deux. ça c'est une vraie similitude. Non, mais c'est beau, hein, parfois l'amitié, ça fait des choses quand même extraordinaires.
Alors, vous êtes deux gars du Nord.
Ouais, en fait, on s'est rencontrés un peu comme ça, parce que moi, j'entendais, quand j'étais adolescent et très jeune homme, on me disait, il y a un très jeune chef dans la région, il fait des choses que personne n'a jamais fait avant, alors je voulais découvrir ça, et alors j'ai réuni mes économies et je suis allé manger chez Alexandre, et comme je venais de faire 2666 à Avignon et que je l'avais cité dans la presse, il m'a accueilli comme si j'étais...
Le messie.
Ouais, non, mais... Et donc on s'est rencontrés comme ça, et depuis Alexandre et ses équipes, d'ailleurs, parce qu'Alexandre il amène toutes ses équipes quand on joue au théâtre, donc c'est génial, on se rencontre comme ça, donc c'est trop beau, quoi.
Ouais, vos équipes, c'est combien de personnes ?
Non, ben, on est nombreux, mais là, on est venus au passé, voir le passé. On était 16 ou 18. Avec Julien, en plus de l'amitié, on fait des choses ensemble, donc il se passe...
Oui, on racontera ça tout à l'heure.
Oui, pour les équipes, c'est à un moment donné, s'il n'y a que moi qui m'intéresse et que si eux ne comprennent pas ce qui m'anime, j'anime un collectif.
Ça, finalement. C'est un bon manager que vous êtes.
Oui, mais...
Entraîner son équipe.
Oui, un manager, un leader, quelque chose, une locomotive surtout. C'est surtout se comprendre que ce qui, moi, m'émeut, ce qui me donne des frissons et me bouleverse, ils doivent être capables aussi de... Même si eux, ça sera pas la même chose qu'ils comprennent. Sinon, si je décolle et puis ils me disent le chef il fait des trucs, il est bizarre. Et d'un seul coup, si on les emmène voir, on les tire avec soi et ils sont tous contents, ils découvrent Julien et son travail et son équipe aussi. Et là, ils étaient ébahis.
Alors que Julien Gosselin vient dîner seul chez vous.
Seul, pas que. Mais
ouais, mais c'est assez beau parce qu'il y a pas mal de membres de l'équipe qui sont venus goûter la cuisine d'Alexandre depuis, quoi.
Ah oui.
Ouais, bah c'est trop. Ouais. Et en fait, ça produit des choses d'ailleurs tout à fait intéressantes parce que c'est deux mondes inconnus pour les uns et pour les autres. Et que c'est des découvertes, il y a de la méfiance évidemment, il y a toujours de la méfiance vis-à-vis du théâtre. Et pour plein de gens, il y a de la méfiance vis-à-vis de la haute gastronomie. gastronomie, disons. Et en fait, ça produit des choses où l'émotion, comme ça, gagne à travers les préjugés, quoi.
Alexandre Gauthier, c'est pas toujours facile, le théâtre de Julien Gosselin. Il invente une forme, donc il faut découvrir et accepter cette forme. Il travaille avec la vidéo. Quelquefois, on voit pas ce qui se passe sur le plateau, mais on le voit à travers le film qui filme les acteurs. La caméra filme les acteurs et c'est projeté. Donc on a une sorte de mélange entre théâtre et cinéma. Est-ce que vous n'avez pas été un peu perdu quand vous avez vu un spectacle de Gosselin?
Ah non, mais c'est une révélation, c'est une gifle, c'est d'une puissance. Moi, j'y vais quand je lui dis, écoute, je suis en pleine forme, j'ai pris deux Prozac, j'attaque, je m'installe. Non, mais c'est quelque chose qui, pour moi, me subjugue d'énergie. Comment on peut penser autant les choses? Comment on peut rendre les choses aussi puissantes et en même temps en les rendant totalement éphémères? C'est ça qui m'épate. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en effet, il y a une réalité augmentée par le cinéma, la vidéo qui, d'un seul coup, va être capable de montrer le clin d'œil ou un tapotier d'un doigt sur quelque chose pour justement, à un moment donné, donner une précision assez incroyable. Moi, je suis ébahi par les comédiens qui sont...
Vous étiez déjà allé beaucoup au théâtre ou pas du tout?
Non, mais j'ai vu du théâtre, j'habite à la campagne, donc on voit pas voir des choses aussi fortes. Je pense que je n'ai jamais vu...
Il y a des choses pas loin de chez vous.
Non, c'est vrai, mais j'ai jamais vu des choses aussi fortes. J'ai vu des spectacles vivants, mais du théâtre de cette façon-là, pour moi, c'était une révélation. C'est du génie, parce que...
Non,
mais je pense...
Là, les auditeurs vont écrire arrêter avec la flagornerie.
Non, mais parce qu'il y a aussi cette capacité aussi à l'audace. L'audace qui est permanente, l'audace d'oser affronter des textes qui sont pas entendables. Il y a une capacité aussi à se dire, on est dans un fauteuil, il nous coince dans notre fauteuil, il nous envoie des trucs, j'avais pas prévu de prendre tout ça dans la tronche quand même. Et donc ça, c'est assez impressionnant. Et en même temps, il y a des textes que j'ai entendus et que je n'aurais jamais lus. Finalement, vous savez, on fait un peu des œillères sur la vie et l'époque d'aujourd'hui, des choses qui disent, bon, ça serait bien que ça me frôle pas trop près, quoi, vous voyez. Et là, d'un seul coup, avec Julien... Il y a des sujets, des fois des vieux textes qui sont ramenés à notre époque. Si on prend le passé, si on prend Duras, c'est des choses qui sont encore au goût du jour et qui sont d'une...
C'est vrai que vous alternez, vous n'êtes pas uniquement attiré par les textes contemporains. Même si vous aimez la littérature contemporaine, moi j'ai été ébloui par Les particules élémentaires de Houellebecq, qui vous a fait vraiment naître au monde en 2013. Ouais. Hein, Julien Gosselin, ça a démarré à Avignon, puis vous êtes allé partout avec ce spectacle, et surtout, ça vous a ouvert les portes des institutions, et puis progressivement, vous êtes devenu patron du théâtre de l'Odéon. Est-ce que votre objectif, il est d'être contemporain, quel que soit le texte et la date du texte?
Oui, parce que de toute façon, on ne cesse, et à juste titre, de célébrer le fait que le théâtre est un art vivant et un art d'aujourd'hui. Donc, de fait, il est contemporain. Il n'y a pas le choix, d'une certaine manière. C'est une des choses que je pense de plus en plus. Et puis, comme Alexandre est là, c'est étonnant. Je me suis dit, il n'y a pas très longtemps, que je venais d'une région aussi, qui avait été une région détruite et tout ça, et où la question du patrimoine, elle est présente, mais d'une manière, en fait, assez lointaine. Je pense, au fond, que je ne suis pas né dans un endroit où on célébrait quelque chose de l'ordre du passé.
Pourtant, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, il y a des anciennes usines qui deviennent des friches pour les artistes, des maisons folies à Lille, à côté, à Roubaix, à Tourcoing. Il y a une volonté, quand même, de prendre le patrimoine pour en faire quelque chose d'autre.
Oui, le patrimoine dont on parle, c'est un patrimoine aussi de souffrance, de violence du travail, et que ces choses-là, on le sent. Enfin, moi, je l'ai senti toute ma jeunesse, toute mon adolescence. Donc, c'est pas un patrimoine, si vous voulez, uniquement célébré, uniquement heureux. Je raconte souvent que, quand même, le théâtre, le Chanel, le théâtre dans lequel je suis rentré quand j'étais adolescent...
C'est une scène nationale à Calais.
Exactement, et c'est des anciens abattoirs. Les théâtres à l'italienne et tout ça, moi, j'ai découvert ça beaucoup plus tard.
Et pourtant, vous jouez souvent dans des salles traditionnelles.
Eh ben, finalement, ouais, vous voyez. Hein.
La salle traditionnelle magnifique de l'Odéon.
Absolument.
Et là, vous jouez dans une autre salle, ce Duras. Alors d'ailleurs, vous avez choisi une très belle scénographie, assez épurée, comme s'il fallait que le texte rentre sans qu'on soit embarrassé de décors, de couleurs, etc. C'est presque blanc.
Ben, c'est comme les pages des éditions de minuit.
Ah oui, où était édité en grande partie Marguerite Duras avant POL.
Et POL travaille d'une certaine manière la même pagination, ou presque.
Avec une épure.
Oui, complètement, des grandes marges blanches, un carré de texte sombre au milieu, et donc une sorte de place comme ça laissée à l'apparition presque physique de la littérature. Au fond, on a travaillé de la même manière.
Je voudrais qu'on écoute un autre grand chef qui est Pierre Gagnaire. Un petit peu plus âgé qu'Alexandre Gauthier. C'est une référence pour beaucoup, je pense, de chefs. Je parle sans doute à votre place.
Immense.
Immense, immense. Hein, Pierre Gagnaire.
En cuisine et en humanité.
Et c'est aussi un fou de culture. Il apprend au contact des artistes. Moi, je l'ai souvent interviewé. Il est presque plus heureux de parler des artistes qu'il a rencontrés ou achetés, parce qu'il est, c'est aussi un collectionneur, que de sa propre cuisine. Écoutez-le.
Je me suis posé très vite cette question de l'utilité de mon métier. Parce que, bon, j'ai un peu les yeux ouverts sur le monde et je suis comme les autres, je n'ignore pas qu'il y a des gens qui crèvent de faim et pour qui la nourriture, c'est survivre. Donc je me suis dit, tu vas mettre autre chose dans ton métier, une dimension artistique, si vous voulez. Parce que si finalement, un beau tableau, une belle sculpture, un joli film, c'est pas plus utile qu'un bon repas à la marche du monde. Il faut être clair. Mais n'empêche que je me suis rendu compte, alors est-ce que la cuisine rentre dans ce domaine-là ? C'est que la culture donne du bonheur aux gens, la culture enrichit les gens, elle donne aussi à réfléchir. Alors, modestement, un repas, eh bien, donne aussi un petit peu, pas à réfléchir, mais fait appel à des émotions qui sont un petit peu mentales aussi, quand même.
Comment réagissez-vous à ce que vous venez d'entendre, Alexandre Gauthier ?
Mais Pierre est pour moi un grand sage de la cuisine. Il a raison sur le principe de dire que finalement, on n'est que du superflu. La grande cuisine, ce n'est que du superflu. Et que moi, j'ai du mal à me projeter à côté d'un artiste et tout ça, et que je suis en admiration. Et en tous les cas, cette vision artistique de l'artiste me permet aujourd'hui, m'engage, m'encourage à aller toujours plus loin. C'est-à-dire que c'est eux, c'est être défricheur, oser prendre un chemin neuf, et tout le temps quelque chose d'évident, j'ai envie d'y aller. Et en même temps, j'ai besoin de cuisiner, j'ai d'autres lieux que la grenouillère, et qui permettent de faire une cuisine du quotidien, une cuisine qui s'adresse au village.
Vous pensez à quel lieu ?
Ouais, j'ai un endroit qui s'appelle le café à Montreuil, simplement.
Il s'appelle comment ?
Le café Grand Place, ouais. Et qui propose des plats à 12,50€, et qui d'un seul coup s'interroge sur une cuisine fraîche et tout ça, mais qui d'un seul coup est aussi, doit être dans le quotidien. C'est-à-dire que l'exceptionnel ne peut pas, il y a l'extra et il y a l'ordinaire. La grenouillère est plutôt de l'extra, et une vision, un endroit où on s'exprime, un bateau amiral, un laboratoire, un endroit où avec les équipes, on ose prendre des directions qui ne sont pas communes.
Et surtout, vous adressez à un autre public.
Oui, et en même temps, on doit pouvoir faire, le public du village peut aussi arriver de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est comment on appartient en étant à la campagne, à cette communauté du village, finalement.
On parle souvent, Julien Gosselin, de la culture pour tous. C'était le slogan de Chirac, il y a très longtemps. Vous vous rendez compte, on l'entend encore régulièrement, il faudrait une culture pour tous, et on n'y arrive jamais à la culture pour tous. Comment ça se passe pour vous à l'Odéon ? Ce désir de parler, on parlait des gamins tout à l'heure, des lycéens, autant qu'aux spécialistes de Duras, qui peut être un monsieur de 50-60 ans.
Il y a deux choses pour moi qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire que j'ai deux boulots maintenant. Il y a celui d'être metteur en scène, et puis celui d'être directeur d'un théâtre. Il me semble que celui d'être directeur d'un théâtre, c'est justement d'offrir au maximum la possibilité à tous d'abord de venir, en faisant attention aux tarifs, en faisant attention au public qui vient. Et puis aussi de se sentir bien. Ça veut dire que le bar soit sympa, qu'il soit ouvert, qu'on puisse y faire la fête.
Que les toilettes soient ouvertes.
Exactement, ça c'est fondamental.
J'ai connu des théâtres avec les toilettes fermées, je vous assure qu'on n'a pas envie de revenir.
Exactement. Et puis, il y a mon travail de metteur en scène. Et moi, j'essaye de faire que mon travail de metteur en scène, il reste vraiment un travail d'artiste. C'est-à-dire de ne pas préjuger, comme ce que je vous disais tout à l'heure, de ce que le public peut aimer ou ne pas aimer, et de l'amener à prendre des risques. Et parfois, j'échoue, je m'en rends compte. Et puis parfois, ça produit chez des jeunes gens, notamment par exemple qui ne vont jamais au théâtre, des révélations très fortes. Donc il faut essayer.
Roland Gauthier, c'est qui Alexandre Gauthier ?
C'est mon père. C'est mon père qui était cuisinier, qui a ouvert la grenouillère en 79, qui a repris avec ma mère. Et j'ai pris la relève il y a 21 ans maintenant. C'est la personne dans laquelle qui a cuisiné pour moi, que j'ai vu grandir, qui m'a vu grandir évidemment, mais aussi celui qui était en... Il y a du collatéral dans nos métiers, donc on travaille le week-end, on travaille tard le soir. Donc quand il y a un petit garçon, la cuisine n'est pas un lieu pour les enfants en général, donc c'est un endroit dans lequel on passe, et papa travaillait en cuisine simplement, et avec exigence, comme il devait le faire et comme on le fait, on le répète aujourd'hui. Il est toujours là, il n'est plus en cuisine, mais voilà, il nous regarde toujours d'un œil averti.
Et
d'un
il va bien
voilà. Il va bien, merci.
Ah oui, c'est un grand nom, hein, une grande signature, ouais. Roland Gauthier. Je vous propose de l'écouter, c'était en 1996 sur France Inter, il va raconter un peu ce qu'est le métier de chef, c'est être patron aussi.
Il est certain, dans une brigade de cuisine, dans toutes les cuisines qui existent en France et dans le monde, il faut une rigueur, une discipline. Sinon, c'est la cacophonie et puis on n'y arrive à rien. Chacun a un poste bien défini, chacun doit écouter ce que le chef annonce, etc., y répondre. Et c'est certain que pour tout chef d'entreprise, la gestion est très importante. Et il faut faire très attention à ses investissements. On a le contact avec les banquiers, moi je l'ai également, pas dire quotidiennement, mais c'est vrai au moins une fois par semaine. Mais il est certain qu'avant tout, je suis cuisinier. Et il est certain quand je suis pas assez souvent dans ma cuisine, parce que mon métier de restaurateur m'oblige à avoir un contact avec la clientèle, à être également dans les bureaux pour la comptabilité, j'ai un manque au niveau du toucher des aliments. Disons qu'il faut s'octroyer des temps de travail en cuisine obligatoires. Sinon, il faut se dire aujourd'hui, je vais passer 2 heures, la recherche, etc., donner un coup de main au gars, participer. Et c'est vrai que le toucher me rassure. D'un légume, d'une pièce de viande, d'une volaille, d'un poisson. Et le fait de le refaire, de travailler, me rassure.
Je trouve ça beau, le toucher me rassure. Il vient d'expliquer qu'il est obligé de s'occuper de tout ce qui est comptabilité, de gérer ses équipes, les jours de travail, les jours de repos, et que d'un seul coup, il revient dans sa cuisine et qu'il fait le métier pour lequel il est fait, Alexandre Gauthier.
Bah oui, parce que finalement, être cuisinier, pour être libre, c'est mieux d'être chez soi, finalement. Je suis ému aussi, parce que vous ne connaissez pas ce passage. Mais il faut cuisiner, il faut continuer à cuisiner. Et c'est vrai qu'on est des commerçants par la force des choses. C'est-à-dire que si la salle, elle est vide, ça ne fonctionne quand même pas. Et qu'à un moment donné, il y a le chemin économique qui doit passer par là, par une salle pleine. Et quand on habite où on est, il faut que cette maison clignote, en fin de compte, d'une certaine façon, pour que ça donne envie à nos convives de venir nous rencontrer.
C'est la même chose pour un metteur en scène, j'imagine, patron d'un grand théâtre national, l'Odéon en l'occurrence. Ça fait à peu près combien, quelques mois que vous êtes là-bas, Julien?
Non, mais ça fait presque 2 ans maintenant.
Déjà 2 ans, ouais. Pour moi c'était 1 an et demi. Voyez,
ouais, entre 1 an et demi et 2 ans, allez.
Je suis une mauvaise foi, j'ai dit quelques mois. Vous devez gérer les comptes, vous avez de moins en moins d'argent dans le théâtre, dans la culture en général. Braunschweig, votre prédécesseur, est parti parce qu'il trouvait qu'il n'y avait plus assez d'argent pour la création. Vous avez eu le culot, vous, d'y aller quand même. Donc ça, c'est un souci qui doit vous faire faire quelques cauchemars. Et en même temps, vous avez besoin de mettre la main dans la pâte, de mettre la main dans la cuisine, d'aller en cuisine et de venir jouer, faire jouer des jeunes sur un plateau. Ça, c'est comme si ça vous donnait peut-être une forme d'énergie pour revenir aux soucis.
Oui, et puis j'ai découvert une chose vraiment importante, c'est que je dirige un théâtre qui est, pour tous les salariés de ce théâtre, le fait que le directeur ou la directrice soit créateur, c'est fondamental. Et ça, je dois le dire, c'est une identité vraiment très très puissante.
Alors ça veut dire quoi concrètement ?
Ça veut dire que ce théâtre-là, il est fait pour être dirigé par un artiste, depuis Strehler, et c'est comme ça. Et que je sens qu'on me demande, évidemment on me demande de bien gérer le théâtre, de faire attention à tous les salariés, mais aussi d'être toujours un artiste. Je crois que ce qu'on me reprocherait le plus, si vous voulez, c'est que j'arrête de faire de l'art et que je devienne seulement un gestionnaire. Et ça, je ne sais pas comment vous dire, je ne m'y attendais pas. Et ça me porte, mais d'une force extraordinaire. Je sens que les moments où je suis au plateau ne sont pas, disons, des à côté de ma vie de directeur, sont le cœur de mon métier. Et ça, ça le reste.
En même temps, c'est difficile parce que vous ne pouvez pas prendre l'argent pour toutes vos créations.
Non, mais là, vous voyez, par exemple, je n'ai pas créé l'année dernière. Donc, il y a des choix que j'ai faits. Et en même temps, j'en suis très heureux de ces choix-là. Je l'ai fait parce qu'à un moment, il fallait soutenir l'économie du théâtre pour qu'on arrive à faire une saison de très grande qualité. La saison prochaine, j'aurai la chance de créer. Et je vais vous dire, ce rythme-là, moi, pour le moment, va très très bien.
Mmh. Alexandre Gauthier, vous avez cité un petit bistrot qui n'est pas petit, mais qui est moins cher que la Grenouillère. On dîne à combien chez vous, la Grenouillère ? J'ai pas d'idée du prix.
À 350 euros.
À 12 euros, donc, dans votre bistrot, voilà. À Montreuil-sur-Mer.
Ouais.
Il y a aussi Anecdote.
Exactement, qui est le travail de mémoire, qui est un lieu qui réhabilite, c'est pas bien, mais qui, pour faire mon prénom, j'ai dû écarter un peu le travail de mon père, et donc qui refait les plats qui étaient les plats signature de mon père il y a 45 ans.
Ça, c'est formidable comme déclaration d'amour à son père.
Mais c'était légitime. C'était...
Il est aussi à Montreuil-sur-Mer, Anecdote.
Oui, toujours, toujours.
Et il y a 10 ans, dans l'émission On va déguster de notre ami Gaudry, ils ont parlé d'Anecdote, de cette, j'allais dire, de votre boutique.
Ouais.
Votre coup de cœur,
alors,
Laurent.
Mon coup de cœur, c'est un restaurant.
Un bistrot.
Un bistrot, et donc je vous emmène dans le nord de la France.
Oui.
Alors vous connaissez sans doute Alexandre Gauthier,
et oui,
ou un chef de la Grenouillère à la Madeleine sous Montreuil.
On en parle souvent.
Et donc, chef emblématique de la nouvelle génération.
Exactement, chef talentueux et avant-gardiste. Eh bien, il y a un mois, il a ouvert une brasserie au cœur de Montreuil-sur-Mer.
Oui.
Et là, il sert la cuisine que servait son père lorsque ce dernier a ouvert la Grenouillère. Donc c'était l'année de la naissance d'Alexandre Gauthier, en 1979, il y a donc 36 ans.
Ça date.
Et donc, à Anecdote, puisque c'est le nom de cette brasserie,
Anecdote.
On mange donc de la vieille cuisine de 1979. alors, on va manger des cailloux écrevisses, de la lotte en nage de petits légumes, du steak au poivre, des crêpes suzette et du babord au rhum chantilly.
Bah, je ne sais pas vous, mais moi ça me plaît, hein, j'adore. Voilà. Nostalgie, nostalgie.
Et oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout une cuisine nostalgique.
Ah.
Ce n'est pas du tout ringard, c'est complètement moderne, c'est complètement brillant et vivifiant. Et personnellement, c'est une des plus beaux repas que j'ai fait récemment. Quoi.
Carrément.
Ah oui, oui.
Bon, Alexandre Gauthier, la Madeleine sous Montreuil, chef brillant s'il en est de la génération des jeunes chefs français. Donc
tout
Anecdote, son bistrot pour une cuisine qui n'est pas nostalgique.
Ça, c'était pas mal. Ça a dû vous donner un coup de fouet côté entrée, Alexandre Gauthier.
Oui, c'est sûr. On a besoin d'avoir des relais, comme on disait, faire clignoter un peu si dans l'émission de radio, si la presse montre un peu, ça aiguille un petit peu. On a besoin d'aiguillage pour aiguiller.
Surtout François-Régis Gaudry.
Bah oui, qu'on aime beaucoup.
J'en profite pour passer la parole à Julien Gosselin. Dites-nous ce qu'on mange à la Grenouillère. Dites-nous ce que c'est ce nouveau chef, comme le disait il y a 10 ans, l'émission On va déguster.
Bah, déjà, on ne sait pas ce qu'on va manger. Enfin, on le sait par des intitulés de plats qui restent comme ça très opaques et très mystérieux, poétique. Du genre blinis de lait entier, par exemple. Blinis de peau de lait ou de lait entier.
De lait entier, ça.
Eh bien ça, si vous voulez, en lisant ça, vous ne savez pas exactement ce que vous allez manger.
Il faut faire confiance.
Et il faut faire confiance, il faut vraiment faire confiance. Et c'est tout le temps de la surprise. Par ailleurs, il y a une chose extraordinaire, c'est que le menu est très très long, mais en plus, il est tout le temps interrompu, si j'ose dire, par d'autres petits plats qui vous arrivent, que vous n'aviez pas vu venir, et c'est extraordinaire, quoi. Extraordinaire.
Quelle est la différence entre un Gagnère, un Passard et un Gauthier, par exemple ? Je ne sais pas si vous avez déjeuné ou dîné partout, dans les grands restaurants.
Non, je n'ai pas dîné partout.
Vous pourriez, hein, y a des passions gastronomiques.
Non, mais moi, j'adore ça, j'adore ça. Non, chez Alexandre, qu'est-ce que je pourrais dire ? Il y a des choses, par exemple, dans ce qu'il fait, qui sont vraiment des prises de risque très très fortes. J'ai déjà mangé du tendon, par exemple, chez Alexandre.
Ah oui.
Ouais, et c'est vraiment tout à fait étrange. Alors, c'est très, très bon. Hein. Mais ça fait peur, comme ça, sur le papier. Mais aussi, j'ai déjà mangé des plats, ça, je l'ai déjà dit à Alexandre. Souvent, on essaye de faire des plats très acides ou avec beaucoup d'amertume ou très salés. J'ai déjà mangé des plats chez Alexandre qui étaient presque... Je sais que Alexandre, il va s'énerver si je dis ça, mais qui touchaient presque des zones de fadeur. Et alors ça, on a l'impression que quand je le dis, c'est quelque chose d'assez désagréable. Et pourtant, c'est une sorte de zone comme ça, de plat, presque métallique, comme ça, qui vous arrive et qui est bouleversante, quoi.
Vous voulez provoquer nos papilles.
Mais parce que je pense que tout ne peut pas se hurler, vous voyez. On peut murmurer des goûts, on peut chuchoter des goûts.
Comme au théâtre.
Exactement, je pense qu'il faut aussi aider le mangeur à tendre, pas l'oreille, mais à tendre la papille, à venir écouter un peu des émotions gustatives, des touchers gustatifs qui sont un peu différentes.
On va continuer de parler avec Julien Gosselin, metteur en scène en ce moment de Musée du Ras à l'Odéon à Paris. Et puis avec Alexandre Gauthier, le patron, le chef de la Grenouillère et de quelques autres bistrots, Antidote et le Café Grand Place. Mais on va écouter Léo Ferré, Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Parce qu'on a cherché avec Valentine Chedebois quel chanteur, quel musicien aimait Duras. Il y en a un certain nombre. Il y a évidemment Capri, c'est fini. Hervé Villa, elle dansait avec Yann Andrea sur cette chanson. Elle a d'ailleurs rencontré une fois Hervé Villa. Il y a aussi Édith Piaf dans Savannah B. Elle cite une chanson célèbre d'Édith Piaf, mais elle aimait aussi beaucoup Léo Ferré. Alors c'est parti. Pour Léo Ferré, dans le grand atelier de Julien Gosselin sur France Inter.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours ? Que faut-il faire de mes nuits ? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Et leurs baisers au loin les suivent ? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était telle ou non drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du piano là. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt, encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau.
Le grand atelier sur France Inter.
On peut aussi écrire sans souffrir. Sans trop souffrir. Oui, c'est très dur d'écrire. On n'est pas là, quoi. Pas de vie. La vie est ailleurs. C'est un drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double de ça? On se double d'une autre vision du réel. Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit, à côté de la vie, et duquel on ne peut absolument pas s'extraire? J'ai beaucoup parlé de ça. Et puis, je ne sais pas ce que c'est, écrire, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup parlé, croyant savoir. Puis on me harcelait, alors j'ai donné des renseignements. J'ai donné des renseignements sur l'écrit. Mais savoir de quoi ça procède essentiellement, je ne sais pas.
1984, vous étiez un enfant, Julien
Gosselin.
J'étais
pas né, surtout.
C'est quoi votre date de naissance?
87.
87 ans. Et ben moi, j'étais adolescent et j'étais devant mon poste de télé. C'était Apostrophe. C'est la première fois qu'elle y allait. Je me souviens d'ailleurs que des années plus tard, Bernard Pivot avait dit « Nous avions fait, elle et moi, assaut de séduction ». C'est la définition de l'interview, peut-être, selon Pivot, c'est assez juste. Et effectivement, elle était très contente d'être là et très contente d'avoir Pivot en face d'elle, Marguerite Duras. Elle venait d'avoir le prix Goncourt pour L'Amant, après des années d'écriture et de solitude aussi. Elle a extrêmement bien parlé et bien écrit sur ce que c'est que d'écrire et la difficulté d'écrire. Est-ce que cette voix, avec ce grain de voix, cette voix très théâtrale finalement, on pourrait la mettre sur scène, on aurait pu la mettre sur scène, cette voix qui avait une musique particulière, avec des silences, est-ce qu'elle a pu aussi vous aider à écrire la dramaturgie de ce musée Duras?
Oui, parce qu'il y a plusieurs choses, et ça, en le travaillant, c'était tout à fait net. D'abord, elle ment. Elle ment continuellement. Si on veut le dire autrement, elle se contredit continuellement, mais avec un tel aplomb qu'on peut appeler ça presque du mensonge.
Ou du génie.
Ou du génie. Et il se trouve que ces personnages, notamment ces personnages féminins, passent leur temps à mentir. Parfois même, dans les pièces de théâtre, elle l'écrit en didascalie, ce que j'ai jamais retrouvé ailleurs dans une pièce de théâtre, elle ment. Exactement. Ça, c'est quand même assez fou. Il y a aussi, évidemment, la qualité de silence. Ça, c'est sûr que dans ces textes, si on écoute sa voix et qu'on lit ses textes, l'endroit du point, l'endroit de la fermeture de la phrase, on l'entend très très fort, quoi. Oui, donc sa voix, elle m'accompagne tout le temps.
Ça a dû vous aider aussi pour diriger les jeunes acteurs, hein. Ils étaient en troisième année au conservatoire.
Ouais, on en a pas mal parlé. C'est pas des choses auxquelles je suis très attentive, la question de la ponctuation. Et là, chez Duras, bon, c'est obligatoire. Il faut la suivre. Les phrases se ferment. Parfois même les questions. Ça, c'est une chose que j'ai jamais rencontrée. Parfois même les points d'interrogation doivent se jouer comme des points chez elle. C'est-à-dire que la phrase ne s'ouvre pas. Elle n'est pas ouverte vers la réponse. Elle assène, elle affirme de manière totalement définitive une chose. Et ça, c'est très dur à soi.
Parmi les auteurs que vous avez choisi de mettre en scène, je pense à Houellebecq, il y en a d'autres, même Thomas Bernhardt, il y a un discours politique, il y a une vision de la société. Mmh. Est-ce que Duras, vous avez trouvé des choses qui ont trait à la société, aux politiques?
Il y en a, je ne suis pas allé la chercher du côté du rapport historique, même s'il est passionnant, parce qu'évidemment, son histoire, elle se confond avec l'histoire du XXe siècle de manière absolue. Il y a la question de la colonisation, parce qu'elle est née au Vietnam, ce qu'on appelait alors l'Indochine. Elle a traversé la Seconde Guerre mondiale de toutes les façons possibles et imaginables.
Elle a été communiste. Résistante.
Absolument. Elle a attendu, de ce qu'elle raconte dans le texte extraordinaire, la douleur, elle a attendu Robert Antelme, son mari de l'époque, de retour des camps. Donc évidemment, il y a une dimension historique énorme à l'intérieur de son existence et qui se retrouve dans son écriture. Mais je dois dire que ce qui m'a attiré chez Duras, et ça c'est peut-être une chose de là d'où je viens, c'est vraiment, comme dans La maladie de la mort, comme dans Les yeux bleus cheveux noirs, même s'il n'est pas dans le spectacle, c'est la mer. C'est elle, l'imaginer à Trouville, c'est le fait qu'elle confonde l'océan Atlantique avec certaines plages du Vietnam. C'est le fait que tout ça se mélange à travers une sorte de poésie qui règne, quoi, régnante, comme elle dit. Donc je suis pas allé la chercher du côté de l'histoire, et en même temps l'histoire, elle ressurgit tout le temps dans le spectacle.
Donc du côté de la poésie?
Oui, du côté de la poésie, du côté du choix produit que l'écriture a une importance fondamentale. Vous disiez dans ces interviews, au fond, ce qu'elle décrit tout le temps, c'est que l'écriture est au-dessus de tout, d'une certaine manière. Annie Arnaud a déjà dit que une chose non écrite n'était pas tout à fait vécue, ou que pour vivre quelque chose, il fallait finir par l'écrire. Duras, je crois, aurait pu dire une chose similaire, c'est-à-dire l'écriture gouverne la vie, d'une certaine manière. La poésie gouverne le monde.
Dans Musée du Ras, les comédiens parfois chuchotent. On parlait des plats quelquefois qui sont en train de cuire et qui chuchotent, et qui murmurent. Vous avez employé, Alexandre Gauthier, ce terme. Quelquefois, la voix des comédiens est relayée par un micro. Mm-hmm. Donc, ils peuvent parler comme mm-hmm. ça. C'est presque de la ASMR, on dit, c'est ça?
De la ASMR, ouais.
C'est presque de la ASMR. Vous n'hésitez pas aussi à les faire hurler. Mm-hmm. Il y a tout un travail aussi sur la projection ou pas de la voix.
Oui, c'est presque un des auteurs, une des autrices les plus musicales, musicaux que j'ai pu rencontrer. C'était ultra net. Il y a des fois où j'avais, et ça c'est une chose que j'aime beaucoup faire, où j'avais envie presque de ne plus que projeter le texte et d'avoir un son qui arrivait avec ça. Moi, il se trouve que quand j'adapte des textes, j'écoute de la musique. Je ne sais pas travailler les adaptations de théâtre sans écouter de la musique.
Qu'est-ce qui fonctionne avec Duras ?
Je crois que j'ai écouté beaucoup de musique ambiante, de l'électro, très douce, parfois de la musique classique, du Bach par exemple.
Elle adorait Bach.
Ouais, bah voilà, c'est marrant. Mmh. Hein. Elle dit, à un moment, à propos d'un personnage, elle dit « c'est plage autour des yeux ». Et moi, j'avais besoin d'être sur ces plages-là, quoi. Donc, c'est ça que j'écoutais, ouais.
Ce serait bien d'écouter un extrait. Ça ne représente pas tout le spectacle, il y a 10 heures. Mais ça donne un aperçu, peut-être, cet extrait de l'amant, puisqu'une comédienne prend en charge une partie de l'amant.
Dans la limousine, il y a un homme très élégant qui me regarde. Ce n'est pas un blanc. Il est vêtu à l'européenne, il porte le costume de tuceur clair des banquiers de Saigon. Il me regarde. Mais j'ai déjà l'habitude qu'on me regarde. On regarde les blanches en colonie. Et les petites filles blanches de 12 ans aussi. Depuis 3 ans, les blancs aussi me regardent dans les rues. Et les amis de ma mère me demandent gentiment de venir goûter chez eux à l'heure où leurs femmes jouent au tennis. Je pourrais me tromper, croire que je suis belle. Comme les femmes belles. Comme les femmes regardées. Parce qu'on me regarde vraiment beaucoup. Mais moi, je sais que ce n'est pas une question de beauté, mais d'autre chose. Oui, par exemple, d'autre chose, par exemple, d'esprit. Il n'y avait pas à attirer le désir, il était dans celle qui le provoquait, où il n'existait pas. Il était déjà là dès le premier regard, où il n'avait jamais existé. Il était l'intelligence immédiate du rapport de sexualité, où il n'était rien. Cela, je l'ai su avant l'expériment.
On entend l'une des musiques électro qui d'ailleurs se joue devant nous. Tout ça est extrêmement vivant. Il y a quelquefois un DJ au milieu avec sa console et les acteurs soit qui filment le DJ, soit qui poussent la console avec lui. Vous avez fait un travail collectif. Hein. Même les comédiens sont capables de filmer et de projeter pour nous sur un écran.
Ben c'est ça qui était hyper joyeux dans ce spectacle. C'est qu'on l'a d'abord répété et créé dans le cadre d'un atelier de conservatoire.
Oui.
Donc, pour moi, c'était hyper intéressant parce que, vous l'avez dit, j'ai fait des spectacles comme ça, très très grands, très très ambitieux.
Des fresques.
Des fresques avec beaucoup de techniques et tout ça. Et quand on fait ce genre de travaux, on se retrouve d'une certaine manière démuni. On a beaucoup moins de moyens. Enfin, en tout cas, là, c'était très simple. Et je dois vous dire, c'est quand même des exercices géniaux parce que quand on a moins, il faut trouver d'autres solutions. C'est pour ça, moi, souvent, que d'ailleurs, que j'adore travailler dans les écoles. D'abord, évidemment, c'est pour rencontrer des jeunes acteurs, des jeunes actrices parce que c'est extraordinaire.
Ça nourrit.
Ouais, enfin, tout le monde a des discours convenus sur cette question-là, sur le fait de l'enseignement. Mais c'est la chose la plus extraordinaire. Arine Nouchkine dit « le théâtre et l'école, c'est pareil, grosso modo. Le théâtre, c'est l'école, et l'école, c'est le théâtre. » Je crois vraiment à ça. J'ai même tendance à penser de plus en plus que le théâtre est le lieu, comme ça, de la très grande inexpérience, de l'essai, de la tentative et de la jeunesse. Et que, bien plus que de l'expérience, ou des grands acteurs et des grandes actrices.
On continue de parler ensemble, Julien Gosselin, metteur en scène et directeur de l'Odéon, et Alexandre Gauthier, qui dirige La Grenouillère, près de Montreuil-sur-Mer. Voici le premier album très attendu des Hollandais de Nusantara Beat, qui nous emmène au cœur de l'archipel sonore indonésien. Je vous propose de découvrir un morceau de ce sextet néerlandais.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter. Thank you.
Dans le grand atelier, on a Alexandre Gauthier, le chef, et puis le metteur en scène Julien Gosselin. Ces deux-là s'aiment bien. Julien Gosselin apprécie la cuisine de la grenouillère d'Alexandre Gauthier. Et Alexandre Gauthier s'est mis à aller au théâtre voir uniquement, non je plaisante, enfin principalement, presque. Avec son équipe, les spectacles de Julien Gosselin, dont le dernier là dure 10 heures. D'ailleurs, c'est drôle parce que Duras faisait des livres assez courts, et vous, vous faites 10 heures.
Oui, mais c'est parce que j'ai acheté les Pléiades pour travailler, c'est pour ça.
Voilà, et la durée, vous verrez, en soi n'est pas importante, elle est importante parce qu'elle vous permet de replonger ou de découvrir Duras, d'être dans une immersion avec des moments théâtraux ou des moments qui sont vraiment des performances auxquelles vous adhérez ou pas, mais c'est pas grave parce que vous adhérerez au spectacle suivant. Il y a un livre, Hors les murs, qu'est-ce que vous avez fait ensemble dans un parking, Alexandre Gauthier, avec Julien Gosselin ?
Juste une expérimentation de haute cuisine et d'émotions sensorielles.
C'était l'an dernier.
Exactement.
Ouais. Votre restaurant était fermé parce que la rivière avait débordé.
Exactement.
Et inondé votre lieu. Donc tout le monde était au chômage technique.
C'est ça.
Et vous lui avez proposé une expérience, une performance.
Oui, moi j'avais envie d'arriver à Paris quelques jours, histoire de montrer aussi que le symbole finalement de cette inondation et que le cœur de mon restaurant n'était pas le lieu, mais l'équipe. Et que c'était le savoir-faire et l'énergie collective qui faisait la différence. Depuis longtemps, avec Julien, on cherchait sur un événement qu'on n'avait pas réussi à faire il y a longtemps. Et là, quand voilà, on trouve ce garage, 11 niveaux, c'est un peu l'opposé de ce qu'est la grenouillère, parce que c'est du béton brut et que c'est urbain total.
Et puis vous avez plein de vitres, on peut voir l'extérieur à la grenouillère.
Exactement.
Là, vous étiez en sous-sol.
Oh, c'était en montée.
Ah, vraiment, c'était en montée.
Oui, c'est un garage des années 20, des années 30, dans lequel on montait.
Parce que quand je regarde les photos du livre et donc de ce lieu, j'ai l'impression que vous êtes assez enfermé et qu'on peut projeter des choses à l'intérieur.
Pour ça, c'était formidable. Julien a un terrain de jeu incroyable. Et moi aussi, et l'idée, c'était qu'on ne fasse pas au rez-de-chaussée, finalement, une cuisine et une salle de restaurant, qui était un peu quelque chose de convenu et trop attendu. On a installé, justement, nos convives, nos cuisines au 9e étage, je crois.
Il y avait combien de couverts ?
50.
50 couverts.
50 couverts.
Un seul dîner.
Et un déjeuner. On l'a fait sur une semaine.
Voilà, donc, réservation sur Internet.
Exactement.
Prise d'assaut.
Prise d'assaut en quelques minutes, oui.
Et qu'a fait Julien Gosselin ? Julien répondait à cette question. Ouais. Comment vous avez habillé le lieu ?
On devait faire, il y a quelques années, un spectacle ensemble. On nous avait proposé d'imaginer quelque chose, et puis pour plein de raisons, ça n'a pas pu se faire. Et là, Alexandre m'a appelé, il m'a dit « Bon, on va venir à Paris cuisiner dans un garage, est-ce que tu veux bien le faire avec nous ?» C'était ça la proposition de départ. Et je lui ai dit « C'est dans combien de temps ?» Il m'a dit « C'est dans un mois, quoi. » En sachant que les projets de théâtre, vous savez, souvent, on les prévoit 2 ans à l'avance. Donc, moi, je n'étais pas du tout adapté à ce rythme-là ou à cette chose-là. Et en fait, on l'a visité ensemble. Puis c'était des choses très simples. Il y a Pierre Martin qui fait les vidéos de mes spectacles, qui allait dans la région, enfin dans le coin d'Alexandre, filmer les marais, filmer la mer, vers Merlimon. Des choses que je pourrais mettre dans les spectacles d'ailleurs. On a créé des diapositives aussi, des choses comme ça. Et les spectateurs et les spectatrices, non, enfin les convives plutôt, parce que voilà, c'était plutôt des convives, montaient les étages et étaient pris comme ça dans une sorte à la fois de souvenirs, d'émotions, de choses comme ça qui seraient presque un peu perdues, qu'on avait essayé de transcrire. Il y avait de la musique aussi, il y avait Guillaume Bachelet, Maxence Duval, qui sont les compositeurs de mes spectacles, qui avaient produit une sorte de bande-son. Et puis ils arrivaient finalement dans un endroit où ils pouvaient manger. Et c'était très beau de nous unir là-dessus, ouais.
Alors peut-être que les auditeurs se disent, bah oui, mais ça n'a duré qu'une fois ou deux, un déjeuner, un dîner, c'est pas pour nous, pourquoi on nous en parle ? Ben on vous en parle parce que vous avez voulu garder une trace avec ce livre, Hors les murs.
Bah, c'était tellement incroyable en énergie et en partage. On avait la chance d'avoir 4 super photographes qui ont travaillé dessus. Il restait des traces magnifiques. Et sur cette rencontre, finalement, c'était super intéressant de pouvoir exprimer, que Julien exprime son point de vue sur ce moment, et sur faire théâtre et sur faire cuisine, finalement. Et c'est ce qu'on a voulu, finalement, proposer.
Puis ça doit vous bousculer un peu d'occuper un lieu différent et de travailler différemment. Julien Gosselin.
Ah ouais, ouais. Et puis surtout, si vous voulez, moi, souvent, ce qu'on me reproche, c'est de mettre le son trop fort et d'y aller un peu violemment. Et là, il faut le faire au contact de gens qui vont dîner, qui vont manger. C'est tout à fait différent.
Vous avez eu la main légère.
J'ai eu la main légère. Mais non, mais c'était hyper intéressant. Puis il y a un truc génial quand même, c'est que quand on peut, de temps en temps, sortir de ses habitudes ou des choses qu'on connaît. Moi, j'ai vu pendant une semaine travailler des cuisiniers, des cuisinières. Et c'était, mais extraordinaire. C'était un monde que j'ignorais complètement.
Les visages sur les photos sont très concentrés, parfois tendus.
Non, mais ce que j'ai vu, c'est un niveau d'exigence vis-à-vis de soi-même, de professionnalisme, en même temps de douceur, de bonne humeur, quelque chose d'un niveau de précision que j'avais très rarement observé dans ma vie. C'est extraordinaire.
Du coup, vous l'avez transmis à vos jeunes élèves comédiens.
Oui, on pourrait dire ça, mais c'est très proche. De ce point de vue-là, le niveau de concentration, le fait de devoir, à l'instant T, être au maximum de ses capacités, c'est des choses que je connais par cœur. Ouais.
D'autant que vous admirez le théâtre allemand des années 90, que Frank Castorf, grand metteur en scène, est une sorte de modèle aussi pour vous, et que là-bas, il y a beaucoup de rigueur, sans doute plus qu'en France.
Oh, détrompez-vous. C'est... Non, mais je dis ça parce que...
C'était mon couplet réactionnaire.
Non, pas du tout. C'est parce que, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Il y a aussi, quand vous allez à la Volksbühne dans le stade de Berlin-Est, il y a aussi quelque chose de complètement grunge, une sorte de folie super bizarre, qui peut rentrer en contradiction à ce que vous venez de décrire. Je sais que il y a des choses, moi, dans ce que je peux demander à mes équipes parfois, dans l'extrême concentration, que j'ai pas toujours retrouvé ailleurs de manière si évidente. Hein.
Très bien, parce qu'on dit souvent que les acteurs français sont un petit peu plus dilettantes que les acteurs anglais, que les acteurs de l'Est.
Non, je crois pas que ce soit vrai. Je pense que juste, on travaille pas de la même manière, on travaille pas pareil, que le rapport au langage est totalement différent, que ce qu'est le théâtre de manière profonde est totalement différent. Et que même un acteur ou une actrice se prépare à jouer de manière parfois opposée. Mais si vous demandez, par exemple, à Ivo Vanov ce qu'il pense des acteurs de la comédie française, il vous dira que c'est les meilleurs acteurs au monde avec qui il a travaillé.
Ouais, donc, un metteur en scène qui travaille à l'international, comme on dit, mais qui est néerlandais.
Absolument.
Avant de se quitter, Alexandre Gauthier, Julien Gosselin, on va écouter un extrait d'une émission documentaire sur France Culture, LSD documentaire, en décembre 2024, consacré à la fabrique du goût. Est-ce qu'il y a un goût de la France? C'est la question qui était posée ce jour-là à des journalistes gastronomiques et autres spécialistes de biologie moléculaire spécialisés dans le goût.
Alors, le goût de la France, il n'y a pas de goût français dans le palais. Il y a du goût français dans la tête. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse à cette question, en fait. Désolé.
C'est quand même beaucoup plus... un goût que j'aurais du mal à définir de manière à l'échelle nationale, parce que pour moi, c'est un goût régional, en fait.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un goût réel français. Il y a quelques recettes emblématiques qui nous relient. La blanquette de veau, c'est un grand moment de la cuisine française. Ça. C'est des plats qui sont de la poule au pot, enfin, ce genre de choses. Comment l'histoire, au fur et à mesure, a fini par rouler, finalement, de rencontre en rencontre, pour nourrir, en fait, finalement, ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, le goût de la France, c'est le goût de la rencontre.
On doutait bien que le piment, il vient pas d'Espelette, hein, il venait un peu d'en face, il a voyagé. Et bah, il s'est épanoui chez nous. Le cassoulet, au départ, c'est quand même un plat qu'on pense inspiré par la loubia, par des plats d'origine maghrébine. Donc, pour moi, l'identité culinaire française, c'est ça, c'est un endroit tellement riche et tellement foisonnant et tellement accueillant où les goûts y prospèrent. C'est une machine à sampler les goûts formidable.
Ils acquiescent tous les deux, mes invités. Julien Gosselin, y a-t-il un goût de la France?
Si vous voulez, ça c'est une des choses qui a été quand même décrite depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Je pense notamment à Alexandre Camas, qui est un spectateur de l'Odéon d'ailleurs, et qui a fondé le guide qui s'appelle Le Fooding. Toute cette bande ont commencé à dire de manière très juste que le kebab, ou ce qu'on appelle d'ailleurs le restaurant chinois, qui n'est absolument pas chinois en France, sont devenus des choses aussi emblématiques pour toutes les personnes qui mangent que, effectivement, le cassoulet ou la blanquette de veau. Et ça, c'est une des choses les plus radicales qu'on puisse penser, en même temps les plus belles. Le goût français, c'est aussi de manger un kebab dans la rue, là. Et ça, c'est fondamental. Et puis ça raconte beaucoup de ce qu'on imagine être l'identité et là où on se trompe.
Le goût de la France pour le chef Alexandre Gauthier.
Le goût, il y a des plats, mais je suis d'accord avec Julien, c'est que finalement, c'est le goût sur cette liberté. C'est le goût des autres, mais le goût des autres, pas juste sur le plat qu'ils proposent, c'est aller vers eux. Et qu'en effet, finalement... on doit être dans une richesse de différence et d'aller les uns vers les autres et manger ce que fait l'autre pour soi, s'il ne triche pas, hein, si les produits sont faits maison, c'est l'essentiel. Parce que sinon, on se recroqueville et puis je pense que pour avoir le goût...
Est-ce que vous pouvez me mettre dans le coffre de votre voiture pour repartir à la Madeleine sous Montreuil avec vous?
Je vous emmène, avec plaisir.
C'est là-bas que se trouve la grenouillère. Merci beaucoup Alexandre Gauthier.
Ben, c'est moi.
Merci Julien Gosselin.
Merci.
Bon musée du Ras, ça continue à l'Odéon Berthier à Paris. Et le livre qu'ils ont créé ensemble, écrit ensemble, conçu ensemble à partir d'une performance, c'est Hors les murs. David Leprince a réalisé cette émission, préparée avec Marion Guilbeault, assistée d'Alexandra Connet. Valentine Chedebois a programmé la musique. Il y avait aujourd'hui à la technique Céline Guéribi.